depuis toujours, je l'ai vue dans des rôles de femmes amoureuses, de femmes un peu comme la duchesse de Langeais, ces femmes qui aiment désespérément, follement, intelligemment, mais et conduite. Voilà. Alors voilà, est-ce que c'est la première chose qui vous a séduite en lisant justement cette trajectoire de femme forte, puissante, amoureuse et avec un drame à la clé?
Oui, c'est vraiment. J'ai envie de jouer cette pièce sans me poser trop de questions, parce que les grands textes, évidemment, j'en ai envie aussi, mais là j'ai envie de faire ça pour parler aux femmes, des femmes, d'elles, voilà, de nous. Alors quand je vois des femmes, d'ailleurs de tous les âges, répondre à ça comme si on leur tendait un miroir, mais avec tendresse et bienveillance, enfin à travers l'histoire qu'on raconte, moi ça me va, parce que c'est exactement ce que je voulais faire avec cette pièce. C'est voilà.
Leur parler.
Voilà. Parler avec elles, avoir une conversation intime à travers quelque chose d'écrit et de jouer, de représenter, mais qui constituerait une forme de catharsis pour elles. Oui. Et voilà, une façon de dire vous n'êtes pas seule, je ne suis pas seule, nous ne sommes pas seules.
Et en plus, selon les époques, le sentiment est le même, puisque la douleur
oui,
est la même.
Absolument.
Ou maintenant.
Oui, voilà. C'est voilà, le texte est évidemment quelque chose qui sacralise le théâtre, mais là, y a, ce qui est sacré, c'est l'émotion de l'intime. Les mots sont terriblement quotidiens, mais la tragédie se peut se jouer avec les mots de tous les jours, hein, malheureusement.
Ouais.
Donc voilà, c'était un peu le pari que j'avais envie de.
Je comprends, la modernité et le rapport à faire.
Oui, c'est ça, mais il y a Faire, mais il y a aussi du Bovarisme, mais aussi un petit peu de Madame de Rênal, avec un Julien Sorel, qui est là, ambitieux. En fait, la femme qui a écrit ça, c'est une femme qui est professeure de théâtre, donc qui est auteure, qui est également metteur en scène, qui dirige un théâtre, et elle est passionnée de littérature française, et elle a, vraiment, elle a fait transiter à travers ce qu'elle avait envie de raconter, même s'il s'agit comme ça de trois acteurs, de trois personnages posés là, leur rapport mère-fils, leur rapport garçon-femme. Elle a voulu y mettre tout ce qui l'inspirait. Et donc, alors, Phèdre, il y a une mise en abîme plus cadré, plus cerné, plus identifiable évidemment, avec laquelle on fait chier d'ailleurs, mais sinon il y a, aussi voilà, des héroïnes qui m'ont également nourrie et qui m'ont donné envie de jouer certains rôles dans ma carrière. Il y a même un petit côté, c'est drôle parce que j'ai un film qu'on avait proposé et que je n'aurais pas dû refuser un parmi d'autres, qui était Liaison Fatale de Adrian Lyne. Et pour moi, la scène, l'avant-dernière scène dans le bureau avec lui, il y a un petit côté un peu, tout à coup, elle vire obsessionnelle, et il y a un petit côté perte de raison. Voilà, et ça me plaisait, j'avais juste envie de jouer un peu de tout ça, sur tous ces registres-là.
D'accord, ok, merci.
Donc, 8 ans sans théâtre.
Il paraît.
Ça vous a beaucoup manqué.
Ben, ça me manque quand je refais du théâtre. Je me dis, mais comment je peux passer autant de temps sans en faire, alors que. Mais je sais pourquoi. C'est parce que quand j'en fais, ça devient toute ma vie. Et il n'y a plus de place pour rien d'autre et pour personne d'autre. Et comme je suis une femme de devoir et de responsabilité et de. Voilà, et j'ai beaucoup de mal à ne penser. J'ai eu beaucoup de mal jusqu'à maintenant, peut-être maintenant, les enfants élevés et tout le côté descendant de ma famille ayant disparu. Je peux à ce moment-là faire de ce métier ma vie, réellement, ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. J'ai eu ma vie, puis ce métier, mais c'est un métier que je fais de temps en temps comme un métier, mais en général, quand je le fais comme un métier. Simplement, ça ne me réussit pas. Quand je le fais comme une profession de foi, à ce moment-là, je m'y retrouve et les gens me retrouvent aussi. Mais là, si je commence à le faire comme ça, je ne ferai plus que ça. Et pourquoi pas? Peut-être que les 10 ans qui viennent, ce sera pour faire que du théâtre et du cinéma Et puis tant pis pour ceux qui ont besoin de moi. Mais il y en a plutôt. Il est temps.
Et vous vous sentez différente maintenant sur les planches qu'il y a quelques années? Vous sentez dans votre ressenti sur scène quelque chose de différent? Ou c'est toujours...
L'exaltation est toujours au rendez-vous.
Ouais.
Parce que sans ça, c'est pas drôle. Hein. Et puis, non, je... Enfin, je ne sais pas pourquoi vous sentez quelque chose.
Non, du tout. C'est une question que j'avais envie de vous poser. Peut-être que vous sentiez des choses différentes.
Des choses différentes à travers ce que j'ai exprimé, oui, mais il n'y a pas de...
La manière de vivre, je ne sais pas, la pièce, les scènes.
Vous savez, c'est différent tous les jours, mais vraiment tous les jours. Il n'y a pas une représentation qui est la même parce que pour moi, une pièce, ça n'existe pas si les gens ne sont pas présents. Et pour moi, c'est un champ vibratoire d'une extrême puissance. C'est un des derniers lieux c'est une connotation un peu religieuse, mais quand même de communion. Enfin, il y a quelque chose qui est complètement mystique pour moi dans la rencontre entre des gens qui décident de se déplacer pour croire que quelque chose va leur arriver. Qui va faire une petite différence peut-être dans leur journée et aller savoir dans leur vie. Mmh. Et puis nous, qui sommes là pour être les guides d'un passage qui est presque initiatique. Pour moi, aller au théâtre, c'est... Enfin, je déteste aller au théâtre sans me souvenir ensuite et sans devenir presque habitée par ce que j'ai vu et que ça représente à ce moment-là... il faut que ça représente à ce moment-là... Une altération magnifique. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui me fait penser au film Le goût des autres d'Agnès Jaoui. J'avais beaucoup aimé ce monde théâtre où il y a le personnage de Bakri qui va comme un beauf intégral et qui ne peut pas supporter l'idée d'être au théâtre et qui tout d'un coup se retrouve complètement bouleversé. Et par la représentation de Bérénice, et qui va voir ensuite Anna Barraud dans la loge en lui posant une question complètement idiote, mais qui est en même temps un homme différent pour toujours. Ça, pour moi, c'est magnifique. Enfin, je pense que ça devrait être la vocation du théâtre, puis une autre vocation en tant que comédien aussi, d'être passeur de quelque chose d'un peu supérieur. Enfin.
Concrètement, comment ce texte vous est venu sous les yeux? Est-ce que c'est vous qui l'avez suscité? Est-ce qu'il a déjà été également monté ailleurs? C'est une création à Paris, mais est-ce que c'est une création mondiale ici? Est-ce que c'est vous qui l'avez suscité ou est-ce que vous l'avez découvert? Vous connaissiez l'auteur, vous avez parlé avec elle, expliquez-nous.
Non, c'est une création, ça n'a été joué nulle part. Le texte intégral, on ne le joue pas parce que c'est une pièce qu'on voulait courte, qu'on voulait assez fulgurante. L'auteur dit il faut que cette pièce aille aussi vite qu'un train qui va à la catastrophe. Hein, donc il y a quelque chose qui peut dérailler à n'importe quel moment. Et si on avait joué le texte intégral, je pense qu'on aurait eu 4 heures de représentation. Et c'est un texte une agente d'auteur anglo-saxon qui s'appelle Suzanne Serkin venait de recevoir et qu'elle venait de confier aussi à une traductrice qui s'appelle Séverine Magua qui traduit Daniel Kinn habituellement. Et ça m'a été donc communiqué, puisqu'on savait que j'essayais de trouver un texte, mais un texte un peu différent que j'avais, voilà, j'avais, parce que en général quand l'envie de travailler me prend, je me lance un peu d'une manière un peu enfin sans politique, sans stratégie, c'est-à-dire je ne réfléchis pas, c'est pulsionnel, j'ai besoin que ça me parle et de répondre immédiatement. Et donc je me suis retrouvée avec ce texte en anglais, je me suis dit ah, il y a quelque chose là qui me parle, moi j'ai besoin de raconter à travers ce que ça raconte certaines choses qui vont sûrement faire écho au féminin, à travers le féminin, et c'est comme ça que voilà que j'ai dit bon, j'aimerais faire ça, tout en étant un peu préoccupé de ce qu'il n'y ait pas une langue à proprement dit, parce que le théâtre contemporain américain, surtout de la côte ouest, il est très libéré de tous les codes théâtreux. Et donc, je savais que ça allait sûrement hérisser les poils de tous les défenseurs du grand théâtre classique français et anglo-saxon aussi. Mais moi, ça, ce que je voulais, c'était voilà, rentrer dans cette espèce de nouvelle proposition théâtrale qui passe un petit peu par l'obsession des séries américaines aujourd'hui, que je trouve remarquablement faite. Puisqu'on y retrouve un peu un rythme comme ça d'une écriture qui n'est pas théâtrale à la base. On pourrait croire, enfin je sais pas pour vous, mais pour moi, quand on voit la pièce, que c'est plutôt un scénario qui a été adapté en pièce. On pourrait s'imaginer qu'il s'agit d'une pièce, je veux dire, librement adaptée d'un film qui préexisterait. Participer au montage d'un film, enfin produire un film à partir de cette pièce, mais librement adapté, parce qu'il y a énormément de choses à faire et aller vers quelque chose de plus, c'est très prétentieux, tant pis, de plus kubrickien. Voilà, je trouve qu'il y a peut-être avec des petits pas très timides, aller vers certaines choses qui appartiennent à Ice Watch Shot qu'on ne peut pas faire là sur scène. Voilà. C'était cette écriture comme ça, un petit peu différente. Alors, on l'adopte ou on ne l'adopte pas, enfin, quand ça peut être... Mais moi, j'aime bien que c'est un petit peu dérangeant. Si,
bonjour. Bonjour. Christine, j'ai un blog qui s'appelle Le Théâtre Contre-Cœur. Vous disiez que dans une interview que vous étiez assez impatient de savoir comment l'auteur aller recevoir la pièce, est-ce qu'elle l'a vue ?
Elle l'a vue, oui. Elle était très surprise, mais parce que elle-même disait qu'elle savait pas. Elle redécouvre ce qu'elle a écrit à travers ce qu'on a fait, comme elle le redécouvrira à l'occasion des 10 ans, sûrement selon la façon dont sa pièce sera analysée et interprétée. Ça l'a assez surprise, les parties prises m'ont assez surprise, mais je crois que c'est une pièce au départ qu'elle envisageait plutôt dans un espace plus réduit, plus confiné, et parce que comme vous avez vu, il y a 22 scènes, donc il y a 21 changements de décor qui sont juste impossibles à intégrer en espace et en temps d'une représentation, donc elle pensait que... voilà, je crois qu'à New York, ça se jouera plutôt avec des changements de lumière, mais sans... à la limite, les acteurs seront... D'ailleurs, on l'avait envisagé à un moment donné, seront tous les trois en scène, avec des retraits dans l'espace, lorsqu'il s'agit de... Enfin, puisque chacun a sa scène couple, mais uniquement avec des changements de lumière, des choses comme ça. Mais elle était... je crois que ça l'a... Elle était contente, elle était surprise, mais c'est quelqu'un de très... de très ouvert, donc qui n'est pas... Puis qui est pas, elle n'a pas cet esprit français, en plus, qui est très carré, cartésien, pascalien. Faut des murs, faut un sol, faut un plafond, faut que... Donc, elle était contente, elle l'a vu plusieurs fois, et elle était contente, elle était... Elle était avec nous.
Et donc là, vous nous faites découvrir cette dramaturge américaine qui est importante, mais qui est assez méconnue en France quand même. Je voulais vous poser une question assez générale sur votre rapport avec le théâtre américain. Qu'est-ce que vous affectionnez particulièrement dans ce théâtre, ou s'il y a des aspects ou des auteurs qui vous touchent particulièrement?
Le théâtre américain, je ne le connais pas si bien que ça. Je connais plus le théâtre anglais. J'ai une affection particulière pour Pinter. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le retour qu'avait monté Lubondi à l'Odéon. C'est un théâtre que je découvre. Encore une fois, c'est un... pour avoir parlé avec certains Américains, certains metteurs en scène, off-Broadway, quand je vais là-bas, je me promène là-bas, l'auteur est une... il n'y a pas cette espèce de caractère très très révérencieux face à l'auteur. Enfin, c'est, et l'auteur n'est pas non plus dans une espèce de relation, de rapport maniaque à son texte. Il n'y a pas cet attachement forcené à la moindre virgule. Ce sont des textes qui sont dans lesquels on vous propose, enfin c'est ce que me raconte les metteurs en scène, tout le monde, ces auteurs que moi je connais si mal, ce sont des partenaires des metteurs en scène, des partenaires des acteurs. Voilà. Vous connaissez le théâtre à l'enfer?
Un tout petit peu.
Qui, quoi?
Notamment un petit peu meilleur.
Ah oui, non, vous parlez des vieux, là. Ah non. Oui, bien sûr.
Mais je ne demande qu'à découvrir.
Oh, j'avais vu une magnifique, mais ça, c'était déjà un certain nombre d'années. Oui, enfin, c'est Malkovich qui sait bien les adapter. Une magnifique mise en scène du... Ah, zut, de Miller. Le commis voyageur. Mais c'était absolument extraordinaire avec Dustin Hoffman, c'était inouï. Enfin bon, voilà. J'y vais pas assez souvent. Il y a des gens qui prennent des avions régulièrement pour aller à New York ou pour aller à Londres. Moi pas, mais ça risque de changer ça aussi.
Vous avez parlé de la mise en scène de Pinter par Luc Bondy. Vous avez un projet avec lui au théâtre?
Oui, on a absolument un projet.
Sur une pièce française ou étrangère?
Non, mais plutôt étrangère, plutôt du côté russe, on va dire, allez. Non, plutôt russe. Oui.
Vous apparaissez à l'affiche comme directrice artistique. Mmh. Ça vous recoupe quoi exactement comme rôle?
C'est que à chaque fois qu'on vous dit mets-toi là, au lieu de dire d'accord, je dis pourquoi.
C'est en kikineuse, c'est pas directrice artistique.
Non, c'est en kikineuse dans kikineur, surtout. C'est-à-dire légitime défense. Non, ça permet d'avoir une forme de liberté dans la création participative. C'est-à-dire que ça permet de se poser des questions sur les options artistiques avec la mise en scène et de ne pas être juste, de ne pas subir. De toute façon, j'ai jamais aimé travailler pour les gens, j'aime travailler avec les gens. Mais de temps en temps, ça va mieux quand c'est dit et donc quand c'est écrit. Donc du coup, au lieu de me demander est-ce que je peux m'autoriser à proposer autre chose ou à questionner cette idée, ce parti pris, etc. Ben, là, je laisse libre cours à mon élan.
Puis vous parliez aussi de l'esprit français tout à l'heure, qui donc met les choses dans des cases, des choses assez cartésiennes, en étant justement polyvalente, actrice et directrice artistique. Ben, du coup, vous militez aussi pour l'idée un peu anglo-saxonne de la chose, non?
Oui, enfin, j'ai mis du temps, hein. Je suis longue à la détente, hein, parce que quand je vois toutes ces actrices qui savent passer à la mise en scène, qui écrivent, qui chantent, qui jouent, enfin qui se posent pas les questions de est-ce que j'ai droit d'exister dans plusieurs domaines, est-ce que j'ai droit de m'exprimer. Je pense à Mélanie Laurent, il y a tellement d'actrices aujourd'hui, de comédiennes qui sont. Et je trouve ça fantastique parce qu'elles ont une espèce d'assurance et finalement d'estime d'elles-mêmes, une forme d'amour d'elles-mêmes qu'elles n'attendent pas qu'elles n'attendent pas à voir validé, dont elles n'attendent pas qu'il soit validé, que ce soit validé par l'extérieur.
Bien sûr.
Et ça, je trouve ça très important parce que c'est vraiment là une vraie prise de pouvoir, mais un pouvoir, le pouvoir de son intime, d'une conviction et d'un désir qui n'est pas sans arrêt, qui ne baigne pas. Par principe au principe du côté il faut rester à sa place. Oui. Et donc elles sont dans elles ont pris le pouvoir, mais de façon très douce, c'est très... Mais avec une insistance superbe, enfin, puisqu'elle, je trouve qu'elle arrive à faire des choses fantastiques. Et maintenant, ça, c'est bien parce que ça commence à déconcerter un petit peu et à... Elles sont encore critiquées. On les dérange beaucoup, je trouve, sur leur chemin. Et elles peuvent être heurtées et blessées, mais elles ne lâcheront pas prise. Et moi, elles m'inspirent pour, un peu sur le tard, me dire, ah, moi aussi... Voilà.
Et du coup, vous allez regarder vos autres projets, futurs projets, à l'aune de cette expérience. Voilà.
Absolument. C'est l'idée, c'est soit de travailler avec des gens absolument fantastiques, devant lesquels vous êtes trop heureux d'être pétri d'admiration, soit de se dire, bah, après tout, moi aussi, pourquoi est-ce que mes idées, mes envies, mes visions, pourquoi ne pas leur donner une place, une existence et ne pas le signer soi-même, au lieu sans arrêt de dire non, c'est pas assez bien, non, je suis pas assez douée, non, je suis... Voilà. Enfin, moi, j'ai passé ma carrière avec énormément de doutes sur moi-même. Mm-hmm. Je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter. Voilà.
Et vous avez l'impression que c'est l'histoire de votre personnage qui est le plus important, ou c'est pas l'histoire du partenaire qui était cartelé, justement, entre une possessive et puis donc une directrice séductrice.
Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la perte chez cette femme de tous ses repères, d'un pouvoir qui est socialement... en place, d'un équilibre familial qui est également en place. Et ça, mais évidemment, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se joue entre celui qu'elle rencontre et elle, et la façon dont, hors champ, les choses continuent aussi à se dérouler, parce qu'il y a... Il y a beaucoup d'orchant dans cette pièce aussi, qui fait exister ce qu'on joue frontalement. Et mais moi, ce sont ces relations-là qui m'ont intéressée quand j'ai lu. Mais en même temps, comme à n'importe quel auteur écrivain, lorsqu'on demande est-ce qu'il y a de l'autobiographique là-dedans, est-ce que c'est de l'autofiction, bien sûr que c'est de l'autofiction, même sur l'inconscient. Voilà. C'est ça qui est intéressant. De toute façon, c'est très difficile de parler ou d'exprimer au plus juste ce qu'on ne connaît pas. Alors, autant le connaître avant de le faire.
Est-ce qu'il n'y a pas un certain masochisme chez vous à jouer rédactrice en chef, puisque vous disiez récemment dans Psychologie Magazine, la presse m'a pourri la vie au cours de ma carrière en écrivant tout et n'importe quoi sur moi. Est-ce qu'il y a à la fois un malin plaisir à jouer rédactrice en chef, ou est-ce qu'il y a... Je sais pas, comment vous traitez ça, vous qui avez cet œil sur la presse, assez virulent parfois.
Ah ben oui, je veux dire, donnant. Mais ça m'amuse. Mais j'ai dit à Carrie Perloff, donc à l'auteur, que je trouve qu'elle n'avait pas été assez loin, qu'elle n'était pas assez percutante. Voilà, ça se passe à travers quelques répliques que je trouve tout de même relativement aimables. Vous êtes fou. Se guérir du cinéma en devenant journaliste avec un certain mépris, où je n'apprécie pas les journalistes, les petites piques comme ça, mais c'est pas non plus une mise à mort de la profession du journaliste. Mais,
et vous n'êtes pas maso à jouer rédactrice en chef?
Non, mais ça m'amuse un petit peu de prendre leur place 5 minutes avec toute la mauvaise foi qui va avec.
Vous parliez tout à l'heure, Isabelle Adjani, de la vibration que transmet un comédien au public. Est-ce que cette vibration passe aussi entre les comédiens? Et est-ce que vous recevez, une dernière chose, les vibrations du public qui est là?
Ah oui, complètement. Il m'arrive d'ailleurs parfois d'attraper un regard ou une expression comme ça de quelqu'un dans la salle. En général, je me mets à jouer pour lui quand c'est comme ça, parce que je trouve absolument... miraculeux que des gens soient présents en écoute avec une confiance, la confiance, une confiance sans qui n'est distraite
par rien à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement voués à ce que vous, vous leur donnez. Et nous, on est dans un canal parfaitement ouvert, on donne et on reçoit. Et c'est impossible de faire autrement. Et je pense qu'il y a la qualité de la fréquence d'amour avec un grand A. Je sais bien, encore une fois, que quand on parle d'amour en France, à Paris en plus, il faut qu'on cérébralise tout, il faut que tout soit passé au tamis du négatif. Mais cette qualité d'amour-là, elle permet de faire exister un moment autre, avec un grand A là aussi, et entre les comédiens, bien sûr, il y a également un canal, ce sont... Et on ne peut pas, moi je ne peux pas jouer sans l'autre, c'est impossible. C'est pour ça que je suis pas très en faveur de monologue, si vous voulez. Pour moi, c'est, là ça devient quelque chose qui peut provoquer de la fermeture, justement. Mais quand je suis avec Victoria ou avec Nils, on est on est totalement puissant dans ce canal et totalement vulnérable. Et on est absolument à nu. Et les gens, enfin, moi, ce que je ressens d'une salle, c'est la même chose. Alors, évidemment, de temps en temps, on peut, une toux, quelque chose ou un bruit peut vous inquiéter. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que chaque représentation était différente parce que la vibration est à chaque fois différente. On se met naturellement au niveau de la vibration qui existe. C'est-à-dire, si elle est un peu médiocre, c'est notre travail de la hisser vers le haut, d'amener quelque chose qui crée de l'amplitude, et une amplitude qui dilate le cœur. Et si, au contraire, elle est très haute, alors là, c'est nous qui recevons d'emblée le cadeau et qui sommes... élevé, je peux jamais m'empêcher de parler de façon un peu mystique, parce que c'est un moment mystique. Et pour moi, le théâtre, c'est soit mystique, soit mystificateur. Alors, je préfère
la première option.
Et donc, simplement, maintenant, au niveau de vos projets, vous avez parlé donc de Bandit, mais je crois que vous pouvez pas en dire beaucoup plus. Ce serait simplement prévu pour quand ?
Dans l'année qui vient, je pense, dans l'année qui vient, parce que si je commence à laisser du temps, après je laisse beaucoup beaucoup de temps, et puis après ça devient, on me dit alors ça fait 8 ans, alors voilà. Mais, donc là il faut pas.
Et là vous jouez jusqu'à quand là, cette pièce?
Le 23 janvier, on s'arrête le 23 janvier.
Il n'y aura pas de prolongation?
Non, parce qu'il y a une autre pièce qui prend le relais, en fait, c'est une reprise de Nos Femmes le 4 février, donc on est obligé d'arrêter, même si on ne veut pas.
Et donc, vous disiez que tout le monde vous parle de Phèdre, notamment, ou des grands rôles classiques.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, effectivement, vous les jouerez, ces rôles?
Ben, je vais vous dire, même mon psychanalyste, il me réclame. Je crois que je suis un peu coincée. Il y a un moment, il va falloir que j'y aille. Oui, non, puis c'est vrai que j'ai envie de prendre texte aussi. Même si je suis plus dans ma chambre avec des grands textes que sur scène, ils sont en moi, ils font partie de ma vie, de mon imaginaire et de mon monde à moi, de mon monde le plus profond. Mais je voulais vous dire un truc sur Phèdre, sur la présence de Phèdre, en fait, parce que je sais qu'elle est assez contestée. Et puis aussi, vous savez, quand on parle d'une pièce, d'un travail qu'on est en train de faire pendant, c'est-à-dire avant qu'on sache à quoi la pièce va ressembler, quel va être le réel, le spectacle réel qu'on va présenter, on fait toujours des erreurs parce qu'en fait on parle du bâti plutôt que du construit, enfin du bâti qui permet de construire. Enfin, et en fait, je trouve qu'il y a peut-être eu une communication excessive sur Phèdre, hein, et donc je voulais juste vous dire oui, puisque j'avais noté que donc la présence de Phèdre dans cette pièce, c'est un double contrepoint, c'est un peu une voix off, comme dans Desperate Housewives, qui prédit et commente le destin du personnage principal, mais elle est là pour démythifier le tragique. La tragédie ne concerne pas que les reines mythiques ou mystiques. Voilà, la tragédie, c'est aussi dans la vie quotidienne, ce que je vous disais tout à l'heure. L'ascension et la chute d'héroïnes contemporaines dans lesquelles beaucoup de femmes peuvent se reconnaître. Voilà, donc ça m'énerve qu'on fasse de la mise en abîme de faits qui existent dans le spectacle, qu'on mette cette mise en abîme en résonance avec mon passage à côté de Phèdre, on va dire, avec le Phèdre de Chéreau. Et je trouve que c'est quand même incroyable que des critiques de théâtre se réfèrent à ça, qui est hors sujet, au lieu tout simplement de s'intéresser à ce qui les intéresse, ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, dans le spectacle. Mais c'est toujours pareil, il faut toujours qu'ils me fassent un sort particulier, alors que moi je suis dans ces moments-là, comme n'importe quelle actrice, n'importe quelle comédienne, je présente mon travail, dans un travail, dans un cadre, voilà. Mais voilà, désolé, je peux vous dire ça,
À 17 ans, vous entriez au Français, est-ce que vous y retourneriez aujourd'hui, si on vous le proposait?
Oui, oui. Mais c'est drôle parce que j'ai croisé Éric Ruff après la présentation de ce magnifique Lucrèce Borgia, qui m'a complètement mise la tête à l'envers. Donc on était sur la place, Colette, Guillaume Gallienne et lui ensuite, et je suis tellement heureuse qu'il dirige maintenant le Français. Je trouve que c'est juste fantastique. Il est arrivé beaucoup de choses très très bien en français, mais ça c'est encore mieux, voilà. Et je lui disais, mais ce que vous avez fait là, c'est juste merveilleux. J'ai l'impression, quand je vois ça, je me dis que je suis malheureuse parce que je me dis que je ne fais pas le même métier que vous, alors que c'est la seule raison, ce que je viens de voir ce soir, qui fait que j'ai voulu être comédienne, j'ai voulu être dans... Et c'est quelqu'un de très calme, très posé, très réservé, très intense, et il m'a répondu, ben venez, ben venez avec nous. Et donc j'étais comme ça, j'ai dit, comment je fais? Il m'a dit, ben, vous me dites. Voilà, on est resté là, donc on en est resté là.
Isabelle, tout à l'heure, sur la boutade, vous disiez qu'effectivement, vous devriez devenir metteur en scène. Est-ce que ça vous travaille vraiment? Est-ce qu'un jour, on pourra voir une mise en scène d'Isabelle Adjani?
C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, je faisais ça quand j'avais 12 ans. Alors, à 12 ans, je faisais des petites mises en scène. Donc, je sais pas, après, j'ai perdu les moyens. J'ai eu peur de ça, mais oui, maintenant, je vais en faire. Oui. C'est maintenant ou jamais, de toute façon.
Merci.
Ça va?
Merci.
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 Je vous en prie.
On se prépare, le deuxième.
Ah oui, c'est vrai.